Tu crois qu'on peut tomber amoureux deux fois de la même émission ?
Avec toi, Mimi, je tombe amoureux à chaque fois.
Ça fait partie des choses dont on parle peu quand on parle d'engagement. Je ne pense pas là à l'énergie que ça demande ou l'organisation, mais au temps. Le temps qu'on réussit à dégager, à grappiller, pas toujours facilement d'ailleurs. Il s'agit de créneaux qu'on déplace, de dimanches mis à disposition, des heures qu'on aurait pu garder pour soi ou simplement laisser filer sans but, juste pour le plaisir de ne rien en faire. Ici dans le studio, le temps se sent physiquement. L'auditeur de l'autre radio ne le voit pas, mais il y a ce voyant on air, allumé, rouge, qui dit maintenant, qui marque l'instant, l'impératif. Et puis tout ce qu'on ne voit pas, l'avant, l'après, les coulisses. J'ai aussi, évidemment, envie de vous parler de ce moment où le temps qu'on a trouvé devient autre chose, où on décide d'en faire quelque chose de bien, justement, quelque chose de profondément tourné vers l'humain. Un temps qui sert à relier, à rassembler. Parfois ce temps donné ici circule plus loin qu'on l'imaginait, il traverse des lieux, des frontières, il arrive jusqu'à d'autres, parfois des écoles, parfois des enfants. Tiens oui, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va se demander comment agir ici, depuis chez soi, comment des initiatives locales, pensées avec simplicité et créativité, peuvent transformer le temps qu'on donne en impact bien réel, bien plus loin. Pour en parler, je reçois Léonie Lepage et Joël Aubois de l'association Teranga 53. On échange sur cette question dans quelques secondes. Mais avant ça, laissez-moi vous faire le programme du jour, puisqu'en seconde partie d'émission, on changera de décor, mais pas vraiment de questions. On retrouvera notre reportage Ondes durables de la semaine avec Jade FM pour parler de mobilité, ou plutôt de ce qui se passe quand elle manque, quand se déplacer devient un obstacle, un frein visible, mais bien réel, surtout dans nos territoires ruraux. On découvrira le transport solidaire en Pays de Ré, porté par le monde associatif. C'est une réponse humaine à des besoins quotidiens. Nous entendrons les voix de l'association Les Réchauffeurs et celle de Pornic Aglo, Pays de Ré, là où le temps donné devient trajet, le trajet un lien de plus. Et puis, pour refermer cette émission, on retrouvera la chronique de Soizic, un autre écho de l'écho. Voilà le programme du jour, voilà le voyage que je vous propose aujourd'hui dans cette émission, puisque oui, c'est la JT du local qui commence. Je suis Margot, j'invite l'auditeur de l'autre radio à tendre l'oreille puisque l'on est tous ensemble, chacun chez soi, chacun avec quelque chose en cours probablement, et pourtant on va le laisser de côté si vous voulez bien. Tendez l'oreille, vraiment, prenez le temps, puisque l'on passe maintenant à l'entretien du jour.
Vous écoutez la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. Alors je vous le disais, aujourd'hui on parle d'engagement, et lorsque l'on parle d'engagement, peut-être qu'on peut être créatif, inventer des formes, imaginer des actions ici, là où l'on vit, et espérer à partir de là avoir un impact bien plus loin, parfois jusqu'à d'autres continents. Aujourd'hui on va se demander comment s'engager et agir ici, depuis chez soi, comment des initiatives locales peuvent faire naître des liens durables et comment un événement convivial et familial peut devenir un vrai geste de solidarité. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Léonie Lepage, chargée de communication pour l'association Teranga 53. Bonjour Léonie.
Bonjour.
Et à vos côtés se trouve donc la présidente de l'association, Joël Aubois, donc pour Teranga 53. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement qui aura lieu le 25 janvier. Bonjour Joël.
Bonjour.
Alors, pour rebondir peut-être un petit peu sur cette introduction, quand on parle d'agir depuis chez soi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'association Teranga 53 ?
Eh bien, nous, du coup, Teranga 53, pour agir donc au Sénégal, on va organiser donc le deuxième concours de puzzle qui se déroulera donc le dimanche 25 janvier 2026. Et du coup, tous les bénéfices qu'on va avoir vont pouvoir être mis directement là-bas pour donc aider deux écoles au Sénégal. Et donc, ça va permettre d'aider donc, à l'éducation, d'aider également le directeur de l'école pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir avoir une école qui correspond aux enfants.
On a déjà pu vous recevoir, on a eu le plaisir de vous recevoir l'année dernière, Léonie, au micro de l'autre radio, pour parler justement de l'association. Est-ce qu'on peut rappeler à l'auditeur de l'autre radio l'origine, la création ? On parle de deux écoles, effectivement, à Saint-Louis.
Alors oui, bonjour. Donc, le but de Teranga est d'améliorer le quotidien de deux écoles à Saint-Louis de Sénégal, l'école Meru et l'école Deifal. Alors moi, je connais l'école Meru depuis 2013 et l'école Deifal depuis 2017. Par contre, nous y allions personnellement, mon mari et moi, mais Teranga a été,
Elle a été créée.
Teranga a été créée en 2020.
Qu'est-ce qui nous amène à avoir envie de créer une association pour soutenir directement ces écoles ?
Eh bien, disons, c'est plus facile avec une association, parce qu'avec nos activités, nos adhérents, on peut faire beaucoup plus de choses. Par exemple, on a fait des travaux. L'école de Deifal, c'était d'abord de la paille. On l'a connue, moi je l'ai connue avec de la paille. Ensuite, c'était de la tôle. Et on a pu faire, avec l'argent que l'on a reçu suivant des activités, on a pu construire un toit. Il y a eu d'autres réalisations comme ça. Je me rends compte maintenant, moi qui n'étais pas pour faire une association, je voulais garder ma liberté. Je me rends compte qu'avec l'association, on peut beaucoup plus les aider.
Et je pense notamment aussi au parrainage, où je pense que grâce à l'association également...
Alors, nous avons déjà 32 enfants parrainés, mais nous cherchons d'autres parrains et marraines. Alors, nous demandons 150 euros l'année, ce qui revient à 5 euros, parce que c'est déductible des impôts, ce qui est beaucoup moins que les associations nationales ou internationales.
Quels sont les enfants que l'on parraine ? On se dit, tiens, quelles sont leurs conditions de vie avant le parrainage ? Qu'est-ce que leur apporte le parrainage pour l'auditeur de l'autre radio ?
Alors, ce sont deux écoles dans des quartiers très défavorisés. Donc, c'est le directeur ou la directrice de l'école qui voit les familles qui en ont le plus besoin. Alors, il faut dire qu'au Sénégal, l'école est obligatoire, mais il y a des enfants qui ne vont pas parce que l'école n'est pas gratuite. Donc, ça coûte pour les familles. Et donc, cette année, grâce à Teranga, nous avons pu embaucher une troisième animatrice dans une école parce qu'on s'est aperçu l'année dernière qu'il y avait des tout-petits qui venaient. J'en étais très étonnée par rapport aux autres années. Mais c'est ainsi parce que sinon, ce sont les grands frères ou grandes sœurs qui gardent les petits quand les mamans vont travailler. Et donc, les grands frères et grandes sœurs ne vont plus à l'école. Donc, ils ont accepté les petits pour que les grands puissent aller à l'école.
Concrètement, donc oui, effectivement, ces fonds récoltés par l'association vont directement aux enfants, aux écoles. Et pour cela, vous organisez un événement, donc ce 25 janvier 2026. Et alors, c'est un concours de puzzle. C'était déjà la proposition que vous avez faite l'année dernière. Je parlais de créativité au début de notre échange. Je me dis effectivement, c'est original. Et en même temps, c'est vraiment un temps convivial qui est un événement en même temps solidaire.
C'est ça, donc nous, l'objectif c'était aussi de se réunir et de faire connaître l'association. Et on voulait quelque chose qui était un peu en rapport avec l'éducation. Et c'est vrai que le puzzle, ça permet de se regrouper tous ensemble et de partager un moment tous ensemble réunis. Et puis il fallait quand même rajouter un peu de peps. Donc c'est vrai que le mot concours, ça ramène quelque chose de... Il y a un challenge et l'idée c'est vraiment de se challenger tous ensemble et de participer tout en s'amusant bien évidemment.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Léonie, il s'agit de la deuxième édition. La première avait été un franc succès, on peut le dire comme ça.
Oui, c'est ça. Donc la première année, c'était ouvert aux adultes. On avait 160 duos, donc c'était vraiment exceptionnel. Donc cette année, on a décidé d'ouvrir aux plus jeunes. Donc le matin, ça sera dédié aux enfants. Donc il peut y avoir des duos enfants-enfants, donc moins de 12 ans, et des duos enfants-adultes. Et l'après-midi, donc là, on fait comme l'année dernière, donc ça sera un concours pour les adultes, donc plus de 12 ans. Et voilà, donc le matin, il y aura un puzzle, donc ça sera tous le même, de 300 pièces. Et l'après-midi, ça va être un autre puzzle, donc pour les adultes, de 500 pièces.
Il y a encore temps de s'inscrire, je crois.
Oui, c'est ça, il y a encore temps de s'inscrire, donc on n'a pas de fermeture de billetterie, tant que c'est pas... Tant que la date n'est pas arrivée, vous pouvez toujours vous inscrire. Et donc, vous pouvez vous inscrire via Hello Asso sur Teranga 53 en tapant concours de puzzle 2026. Et voilà, il y a toutes les infos via Hello Asso.
C'est un temps convivial qu'on propose aux familles, mais c'est peut-être aussi une manière de transmettre des valeurs de solidarité aux plus jeunes, sans discours moralisant, simplement par l'expérience de se réunir et de se dire, bah, on fait ça pour telle cause. C'est important aussi, par exemple, Joël, j'imagine que tout ce qu'il y a derrière, c'est important de le raconter aux enfants également.
Ben bien sûr, moi je le vois en tant que maman, mamie, et également en tant qu'ancienne enseignante. Voilà, et donc il y aura un stand avec des panneaux, avec des photos, avec des enfants des écoles, des enfants parrainés, ce qui apporte également de la vie de là-bas. Et il y aura également une petite surprise que je ne dévoile pas, que j'ai reçue aujourd'hui par le directeur d'une des écoles. Et les enfants et les animatrices.
Bon, bah, c'est une très belle chose. On peut rappeler à l'auditeur de l'autre radio. Donc pour s'inscrire, il reste des places dans toutes les catégories. Léonie, vous pouvez nous rappeler les catégories?
Oui, donc il reste des places pour donc, le matin, catégorie enfant-enfant. Toujours le matin, catégorie enfant-adulte. Et l'après-midi, pour duo de deux adultes.
Sur le site Hello Asso, on peut également vous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre l'ensemble de vos actualités, si on veut vous rejoindre ou faire un don, même en dehors de l'événement.
C'est ça, donc pour les réseaux sociaux, on a Instagram et Facebook, donc Teranga53. Et pour faire des dons, donc ça se passe également sur Hello Asso, sur la page Teranga53.
Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, personnellement, toutes les deux, de vous engager au quotidien pour une cause comme celle-ci ? Parce qu'on parle effectivement des enfants, mais je pense que personnellement aussi, il y a quelque chose de fort qui se passe.
Ben, disons que moi, je vis autant à Saint-Louis qu'à Laval, dans le cœur. Parce que bon, on essaie d'y aller tous les deux ans. Donc maintenant, on connaît, c'est notre deuxième famille. Donc on essaie d'améliorer leur quotidien comme on peut.
Et moi, donc, j'ai eu la chance d'y aller donc, au Sénégal il y a 4-5 ans maintenant. Et en fait, bah, j'étais pas encore majeure, donc j'étais assez jeune. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que bah, c'est une autre vie et qu'on a la chance, en fait, en France, d'avoir plein de choses qui existent déjà. Et bah, en fait, quand on revient en France, on a toujours cette image-là de vouloir aider. Et bah, étant donné que je travaille, etc., c'est compliqué d'y aller. Donc en fait, c'est le moyen aussi de pouvoir aider, même si en effet, on est assez loin.
C'est le moyen de se dire, tiens, on n'est pas finalement si impuissant que ça face des fois à des situations qui nous semblent loin, qui nous semblent inaccessibles. On se dit, mais même ici, on peut agir. Et les petites actions, les petits événements, les grands événements comme ça qui nous demandent peu de choses, nous, en tant que Lavallois, que Mayennais, d'y participer.
C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est... vraiment formidable quand on y va. Je sais que l'année dernière, ben, j'avais encore les larmes qui me coulaient parce qu'on fait une petite réunion avec les parents des enfants parrainés et les enfants. C'est ce qui me tient vraiment à cœur. Et beaucoup de mamans venaient me voir avec les larmes aux yeux, me serraient les mains, me disaient merci. Alors que moi, je trouve que c'est quelque chose... Ben, c'est facile de faire ça. Hein. Et... Donc c'est vrai que j'en ai même un petit peu dans la gorge. Hein. Et c'est vrai que quand on a l'image de ça, ça donne envie d'aller de l'avant.
Vous le voyez de vos propres yeux.
Exactement.
Les résultats de ce que vous faites aujourd'hui. On rappelle une dernière fois à l'auditeur de l'autre radio la date de l'événement. Ce sera donc le dimanche 25 janvier. Toutes les catégories sont encore ouvertes, donc il faut se rendre sur le site Hello Asso et ou sinon sur les réseaux sociaux pour vous suivre, vos actualités, retrouver tout ce que vous proposez tout au long de l'année. Pourquoi pas vous rejoindre en tant que bénévole. Et alors, on peut quand même préciser à l'auditeur de l'autre radio où est-ce que ça se trouve?
Oui, donc ça va se passer à Argentré, pas loin de Laval, dans la salle de l'escapade.
Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et c'est sur l'autre radio. Dans quelques minutes, on retrouve le reportage Onde Durable de la semaine qui nous parlera de mobilité solidaire. Mais avant ça, on fait une petite pause musicale et j'ai eu envie de la faire avec Linus Sandberg et son titre La Soirée. Écoutez. La mobilité est un handicap majeur dans nos territoires ruraux, transports en commun insuffisants et coûteux pour les collectivités, personnes isolées, défaut de véhicules ou de permis de conduire. Nombreux sont les motifs qui creusent les inégalités face aux déplacements du quotidien. Pour pallier à cette problématique, des solutions existent, comme le transport à la demande qui est porté par les collectivités, mais l'offre n'est pas à la hauteur des besoins croissants dans l'ouest de la France, un territoire de plus en plus dense en population sur de nombreuses communes. Ainsi, ce dispositif est épaulé par le transport d'utilité sociale ou transport solidaire qui est assumé par le monde associatif. Alors, c'est le reportage Onde durable de la semaine. Il est signé Valérie Lechrome de Jade FM et nous entendrons donc aujourd'hui les voix de monsieur Isaïa et madame Balabagnan, président et vice-président de l'association Les Réchauffeurs. Vincent Podeau, également responsable du transport à la demande pour Pornic, Aglo, Pays de Ré. Écoutez.
Onde durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
Une heure.
Oui,
enfin, je dis une heure parce que je compte avec l'attente à la caisse. C'est ça,
bon,
des fois
qui est
le plus...
Moi, il est 14h03.
Oui.
Vers 14h45, 14h50, je me pointe dans l'allée de la galerie.
D'accord.
Hein?
Okay.
Je bouge pas, moi,
oui,
de toute façon.
D'accord.
Comme vous avez un caddie,
oui.
Hein, ça ne deviendra pas pour mettre dans le coffre.
Oui, voilà.
Catherine habite Pornic et fait régulièrement appel au TAD, ou plus justement au TUS. Mais qu'est-ce que TAD, différent du transport solidaire? Le transport à la demande est géré par la collectivité, ici par Pornic Aglo, Pays de Ré. Monsieur Vincent Podeur en est le responsable.
Historiquement, il y a eu plusieurs offres de transport à la demande qui ont été mises en place par différentes collectivités.
Oui.
Et puis là, on est parti sur une nouvelle offre en partenariat avec la région Pays de la Loire sur les 21 communes de Sud-Estuaire et de Pornic Aglo, qui se veut une offre plus large que la précédente.
La mobilité est un handicap majeur dans nos territoires ruraux. Transport en commun insuffisant et coûteux pour les collectivités. Personnes isolées, défaut de véhicule ou de permis de conduire. Nombreux sont les motifs qui creusent l'inégalité face aux déplacements du quotidien.
On est parti du constat d'un besoin de proximité et un peu plus de flexibilité aussi dans les mobilités, dans les besoins de déplacement des habitants, et d'un manque d'offres de transport sur ce qu'on peut appeler des diagonales sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a comme une offre et un réseau qui existe, aller hop, avec le train et le car. Mais c'est vrai que si on veut traverser du nord au sud, d'est en ouest, le territoire, c'est plus difficile. Le transport à la demande reste un transport qui se veut collectif, avec des points d'arrêt et des véhicules qui viennent chercher les personnes au point d'arrêt. Il y en a 181 sur le territoire, et avec une petite spécificité, pour les personnes de plus de 75 ans, on vient tout de même les chercher à domicile. Et puis on a un véhicule qui est adapté pour accueillir tout type de fauteuil, pour permettre une mobilité universelle à tout le monde.
Et pour un tarif ?
2,90 € aujourd'hui, donc c'est le prix d'un ticket aller-hop, quand on prend le car par exemple pour aller sur Saint-Nazaire ou Nantes, c'est le même tarif.
Un transport individuel effectué par la collectivité, donc avec un chauffeur salarié et un véhicule, est facturé 2,90 € à l'usager et coûte une vingtaine d'euros en réalité. Ce coût est donc impossible à équilibrer. Le TUS, transport d'utilité sociale ou transport solidaire, est assumé par le monde associatif et vient en complément du TAD. Nous avons rendez-vous avec les bien nommés réchauffeurs et nous retrouvons Catherine, usagère régulière du service de transport, rendue bénévolement aujourd'hui par Alain. Nous l'attendons devant un petit immeuble résidentiel.
Où est-ce que nous allons, Catherine ?
Alors, nous allons faire les courses au Super U.
De Pornic. Donc on fait un voyage Pornic-Pornic.
Voilà.
Monsieur Isaïa et Madame Balabagnan, président et vice-présidente des réchauffeurs, nous reçoivent.
Globalement, la mobilité, c'est quelque chose de difficile dans les zones rurales parce qu'il n'y a pas de transport en commun ou très peu. Les activités, qu'elles soient médicales, qu'elles soient commerciales, etc., s'étendent de plus en plus sur l'extérieur des communes et les personnes n'ont plus de commerce de proximité, n'ont plus de médecins de proximité et ont besoin de se déplacer. Beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de se déplacer.
En Loire-Atlantique, l'UDAMS, l'Union des associations de chauffeurs solidaires, recensait 48 structures sur le département en 2024. Plus de 43 000 missions en majorité pour des déplacements vers des structures médicales.
On est la dernière possibilité existante après avoir essayé de partager avec les enfants. Enfin, les enfants, d'abord, ils habitent loin. Les voisins, ils n'ont pas toujours envie et puis ils se lassent. Donc, nous, on arrive avec nos bénévoles, nos voitures et puis on accompagne les personnes.
Est-ce qu'il y a un profil type de ces chauffeurs bénévoles ?
Souvent, ce sont des retraités. Il y a pas mal de femmes, il n'y a pas que des hommes. Il y avait peut-être plus d'hommes au départ, je ne sais pas. Oui. Il y a pas mal de femmes, ce sont tous des gens qui ont envie, pour qui la solidarité n'est pas un vain mot. C'est surtout ça, et qui ont envie d'aller rendre un réel service à des gens qui sont en général de la même commune qu'eux. Donc, ils peuvent les connaître ou pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça tisse un certain lien social. Les chauffeurs ne sont pas forcément à la demande de lien social, en général. Ils sont souvent nouvellement retraités, où ils ont un tissu social important, mais c'est important pour eux que de maintenir le lien social de la commune.
C'est des personnes ouvertes, on va dire. Hein. On peut discuter, on peut... Oui. Ou ne pas discuter. Bon, ce qui est un petit peu rare quand même, parce qu'on bavarde toujours un petit peu. Donc,
vous ne me connaissez pas, mais je suis très bavard.
Ah, d'accord.
La situation d'isolement ou l'absence de moyens de déplacement ne sont pas forcément liées à un manque de moyens financiers.
Lorsque un ou une nouvelle bénéficiaire fait appel à nous, on lui rend visite à son domicile pour prendre son adhésion, vérifier qu'elle rentre bien dans le cadre, parce qu'on ne peut pas accompagner de personnes qui ont trop de revenus et qui financièrement peuvent utiliser les taxis. Autrement, on serait en concurrence déloyale vis-à-vis de ces taxis.
Même dans la résidence, on est deux ou trois à utiliser le service de reste-chauffeur. Donc, voilà.
Et pourquoi ? Parce que c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour vous d'aller faire vos courses ? Comment ça se passe ? Parce que là, en fait, on n'est pas très loin, mais...
C'est surtout pour les grandes courses, quand il y a des bouteilles, des choses lourdes à porter. Mm-hmm. Sinon, pour les petites courses, bon, je sais que maintenant, on a la navette gratuite. Donc, si je veux faire un petit aller-retour juste pour une petite course, je le fais. Sinon, quand vraiment je vais être trop chargée, c'est vrai que c'est quand même plus pratique de le faire avec une voiture.
On l'accompagne, mais également on va l'aider à s'installer dans la salle d'attente du médecin s'il y a besoin. Quand les gens ont des déambulateurs ou autres, on va les accompagner. Donc c'est vraiment un petit peu plus que le trajet en voiture.
Voilà. Oui, ça va bien au-delà même.
Oui.
C'est vraiment un accompagnement qu'on fait, hein, pas un transport. Donc on a banni ce mot de transport parce qu'on ne transporte pas une personne, on l'accompagne. Un stage de 15 jours par exemple... On peut accompagner un stage de 15 jours, un stagiaire, le matin, aller le chercher le soir.
On a eu un exemple au Moutier, une dame ukrainienne qui était logée dans un camping qui était bien à l'écart des Moutiers et qui avait trouvé un emploi à la Thalasso à Pornic, mais elle commençait à 7 heures, quelque chose comme ça. Et
6
donc,
heures.
Oui, enfin, on allait la
elle
chercher
allait
à
6 heures.
À 6 heures ou 6h30. On l'a fait, y compris les samedis et dimanches, parce qu'elle travaillait 5 jours par semaine, mais quelquefois c'était le week-end.
D'accord.
Donc l'hiver, les chauffeurs qui sont volontaire pour aller chercher quelqu'un à 6h30. Voilà, chapeau, on n'a jamais eu de problème, on trouve toujours.
Alain, ça fait longtemps que vous êtes chauffeur bénévole au réchauffeur ?
À peu près 5 ans, oui.
Ça représente quelques années ?
Quelques années quand même, oui, une variété de personnes. Là, on a la chance, Catherine se porte bien à 74 ans. Après, quand ça devient trop lourd, on signale au secrétariat. Moi, il y a un moment donné où je ne peux plus prendre. Il peut y avoir une perte d'équilibre. Autrefois, j'ai emmené à Nantes, au cimetière de la Madeleine, un monsieur, justement, et donc ça devient très juste, quoi.
Et puis, on a souvent des appels de gens qui ne peuvent pas bénéficier parce qu'ils ont des revenus trop importants. Toujours, on les redirige vers le site de TAD, on leur explique aussi les règles. On a participé à une présentation du TAD pour bien en comprendre les règles et être capable de dire aux gens, attention, ça existe.
Madame Borne a promulgué la loi LOM, la loi sur la mobilité, en 2021. Et dans cette loi, la mobilité solidaire telle qu'on la pratique, nous, n'existe pas. Parce qu'elle est prévue par une loi qui date du mois de décembre 2016, qui s'appelle la loi Grand-Guillaume. Et cette loi Grand-Guillaume autorise les associations de loi de 1901 à accompagner leurs adhérents, mais avec certaines limites qui ne nous permettent pas d'exercer notre activité si on les applique.
Qui vous empêchent, en fait.
Voilà. Par exemple, c'est dans les zones urbaines, comme Pornic, par exemple, et la Bernerie y est rattachée aussi. Le bénéficiaire ne peut pas avoir un revenu supérieur aujourd'hui à peu près 1 000 euros. C'est pas possible. Ensuite, selon cette loi, qui est codifiée dans le code du transport, on ne peut pas accompagner les gens dans les zones urbaines. Il faut les déposer au pôle d'échange multimodal. C'est-à-dire que si on doit accompagner quelqu'un à l'hôpital à Nantes, par exemple, il faut qu'on le dépose à Neustrie, à côté de Bouguenay, qui prennent le tramway ou le bus, qu'on l'accompagne dans le tramway ou le bus, avec le déambulateur, avec tout ce que vous imaginez, quelqu'un qui est malade. Voilà, donc on s'est battu pour obtenir une amélioration de ce texte. On a répondu à un appel à projet de France Mobilité, qui a été accepté, notre projet a été accepté par le ministère des Transports. C'était en décembre 2020, et depuis, rien ne s'est passé. Par contre, on nous a dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de sanction, donc vous faites comme vous voulez.
D'accord, voilà. Donc vous êtes hors la loi ?
On est hors la loi, voilà. Et on aimerait bien être reconnu et ne plus être hors la loi. Voilà. Les associations de l'UDAMS, l'année dernière, c'était 1800 bénévoles et c'était plus de 2 millions de kilomètres. Ouais. Alors imaginez une collectivité qui prenne en charge un service comme ça, c'est impossible.
Finalement, ces deux dispositifs, qu'ils soient utilisés en commun ou individuellement, réduisent le nombre de véhicules sur les routes et permettent une utilisation raisonnée de la voiture. C'était un reportage de Valérie Lechrome pour Jade FM.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récit d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durables.fr. Ondes Durables est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.
C'est le moment de retrouver la chronique Un autre écho de l'écho dans l'émission L'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Alors notre chroniqueuse nous a rejoint dans le studio. Bonjour Soazic.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Margot.
Alors aujourd'hui vous commencez votre chronique par une devinette. Qu'est-ce qui coûte 95 milliards d'euros par an à la collectivité française qui est inutile voire toxique et qui ne fait l'objet d'aucune remédiation ?
Eh oui, et pourtant, ça viendrait bien combler notre déficit budgétaire, vous ne trouvez pas ? Alors Margot, il s'agit du coût de la virilité en France, chaque année, et ça depuis de nombreuses années.
Le coût de la virilité, mais qu'entendez-vous par là exactement ? Et d'abord, qu'est-ce qu'est la virilité ? Qu'est-ce que la virilité ?
Eh bien, selon le Robert, la virilité définit l'ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux de l'homme, ainsi que sa puissance sexuelle. Waouh, un sacré truc ! Et pourtant, au final, rien n'est dit, rien n'est défini. Or, pour reprendre Camus, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Et là, Margot, il faut bien reconnaître que cette virilité non définie, subjective, en laissant la part belle à tous les fantasmes, toutes les projections et tous les mythes possibles, cause bel et bien le malheur du monde. Alors, c'est d'ailleurs qu'on se pose des questions en tant qu'homme. Suis-je assez fort, assez grand ? À ce titre, je rappelle que 75% des opérations d'allongement des hommes sont du fait... d'allongement des jambes, pardon, et des hommes aussi d'ailleurs, et bien sont du fait des hommes. Est-ce que je suis assez musclé, façon Thibaut in shape ? Assez poilu, mais finalement pas trop. Et mon sexe, est-il assez grand, assez puissant ? Bref, mille questions qui font tant douter les hommes. Et quand on se dit que les réponses les plus nombreuses proviennent des réseaux sociaux, on sombre encore davantage dans la déprime. Alors quoi qu'il en soit, nos garçons, pour devenir de vrais mecs, eh bien ils sont élevés au grain de la virilité. Entre les jouets ultra-genrés et les injonctions à être forts, voire plus forts que les autres, tandis que les petites sœurs, elles, eh ben, s'encanaillent avec leurs copines, déguisées en fées ou en infirmières. Toutes douces qu'elles doivent paraître et continuer à vivre. Alors je caricature, mais à peine, parce que toute la recherche sur la socialisation montre bien la persistance d'une éducation encore très genrée, et notamment par les jouets. Bref, cette virilité est donc construite, car non, Margot, les garçons ne naissent pas virils, ils le deviennent. Et ne me parlez pas de la testostérone, cette fable à laquelle on nous a longtemps fait croire, histoire de naturaliser et donc d'excuser la domination masculine. Sauf qu'aujourd'hui, la recherche est bien documentée pour invalider la corrélation entre testostérone et violence. L'ogrerie sexuelle de Dominique Pellicot ne tient en rien à ses hormones. Les 164 femmes assassinées par leur conjoint en 2025 ne sont pas non plus les victimes d'une hormone. Et en plus, aujourd'hui, les hommes transgenres l'assurent, leur prise de testostérone n'amplifie en rien leur agressivité.
Et donc, Soazic, vous nous dites que toute cette virilité a un coût.
Eh oui, Margot, 95 milliards d'euros chaque année. Ce qui correspond en fait à l'addition du coût des sanctions judiciaires et celui des conséquences pour les victimes. C'est un calcul, attention, hein, qui a été validé par un groupe d'économistes suisses, travail qui a d'ailleurs reçu le prix de la vulgarisation scientifique du Conseil national de la recherche italien. Rien que ça. Alors, pour parvenir à ce résultat décrit dans son ouvrage « Le coût de la virilité », je remercie d'ailleurs mes filles de me l'avoir offert à Noël, eh bien, Lucie Pétavin a ainsi mesuré l'écart entre les dépenses publiques de prévention, de condamnation, les compensations qui sont imputables aux hommes et celles qui sont imputables aux femmes pour chaque catégorie d'infraction. Et en représentant 96% de la population carcérale, les hommes sont surreprésentés dans toutes les catégories d'infractions. Ils sont les auteurs de 99% des viols, 97% des agressions sexuelles, 86% des homicides, 84% des accidents mortels sur la route et 95% des vols avec violence. Du trafic de drogue dans les quartiers pauvres à la délinquance en col blanc dans le milieu de la finance, le genre est le principal déterminant des comportements violents.
Mais alors, Soisy, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Eh bien, la solution, Margot, elle est ultra simple. Il faut élever nos garçons comme on élève nos filles. Comme la publicité, vous vous souvenez, qui disait « conduisez comme une femme ». Et des expériences sont faites, alors notamment en Islande, où on apprend à l'école aux petites filles à prendre confiance en elles physiquement et psychologiquement, et en revanche aux garçons à avoir des interactions tendres et câlines avec leurs congénères. Parce que, bah logiquement, pour faire diminuer le coût de la virilité, eh bien il faut diminuer la virilité. Et il faut donc que les imaginaires se transforment et qu'un garçon frêle, doux et gentil soit aussi attirant que Leonardo DiCaprio ou n'importe quel autre bad boy. Mais ça, Margot, eh bien c'est peut-être pas pour tout de suite. Parce que lorsque je propose à mes élèves depuis des années, une fois fait le constat amer des conséquences de la socialisation genrée, lorsque je leur propose un autre mode de socialisation, eh bien, et j'en suis à chaque fois peinée, au maximum 3 élèves par classe sont d'accord avec cette nouvelle manière de faire. Parce que finalement, et comme trop souvent, on continue d'encenser une cause dont on déplore les conséquences.
Merci beaucoup, Soisy. Je rappelle à l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute que l'ensemble de vos chroniques sont disponibles sur le site internet l'autreradio.fr en podcast. Merci beaucoup, Soisy.
Merci à vous et bonne journée.
Et c'est sur l'autre radio.
Et voilà.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Léonie et Joël d'être passés dans le studio de l'autre radio. Merci à Soisic, notre chroniqueuse du jour. Et merci aussi à celui qui ouvre et ferme le bal de cette émission chaque jour grâce à sa musique originale, bien sûr signée Lénaïque Folzour. Restez à l'écoute de l'autre radio puisqu'à 19h commence l'émission Novorama, un temps de découverte musicale entre indie rock, pop et électro. Au programme, toujours des chroniques et l'interview d'un groupe ou artiste émergent. De quoi garder l'oreille en éveil. Et à 21h, c'est toujours musical, mais on change d'univers avec Chaosphère. Et aujourd'hui, l'émission vous propose un voyage sans balises, allant de la page grecque au gothique metal, de quoi lâcher prise pour les amateurs du genre. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Ce sera le grand format de la semaine. Ensemble, on s'intéressera à la mécanique dans l'entreprise d'insertion Maillancourt. D'ici là, prenez des nouvelles de quelqu'un qui compte pour vous. On oublie parfois de le faire, mais ça compte. Et oui, s'il vous plaît, faites-le. Bien.
Bon, tu peux parler normalement maintenant, c'est fini.
Mais Mimi, je parle toujours normalement.